franceinter.fr.
La prochaine fois, je vous le chanterai. Philippe Meyer, mammifère omnivore. Bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes cette semaine redevables de la chanson à une fidèle auditrice, Françoise Lemoyne, qui nous avait déjà recommandé « Ma belle-sœur » par René Grolier, que nous diffusâmes en septembre dernier, et dont nous allons aujourd'hui diffuser « Ma belle-fille ». « Ma belle-fille » est comme « Ma belle-mère et ma belle-sœur », extrait de son album « D'or » paru en 2008, dans lequel on peut aussi découvrir une chanson sur son beau-père. On ne manquera pas de rappeler que René Grolier est le recordman du monde d'endurance à l'accordéon depuis 1989, puisqu'il a joué 224 heures et 38 minutes sans s'arrêter. René Grolier, « Ma belle-fille ».
Le jour où mon fiston l'a ramené à la maison, j'savais pas si c'était une fille ou un garçon. Faut dire que de la façon qu'elle était habillée, j'suis sûr qu'il y en a plus d'un qui se serait fait rouler. Ma belle-fille, ma belle-fille, elle a tout, tout d'un garçon manqué. Ma belle-fille, ma belle-fille, elle n'a rien, rien, rien d'efféminé. C'est carrément le contraire, l'opposé de ma belle-sœur. Elles ont un point commun, toutes les deux elles font peur. Ma belle-fille, elle a tout, tout, tout d'un garçon manqué. Elle a tout, tout, tout d'un garçon manqué. Elle avait un blouson de cuir noir sur les reins, des manches tellement longues qu'on voyait plus ses mains, un jean tout déchiré, on lui voyait ses jambes, des bottines à ses pieds qu'on fait 39-40. Ma belle-fille, elle a tout, tout d'un garçon manqué. Ma belle-fille, elle n'a rien, rien, rien d'efféminé. C'est carrément le contraire, l'opposé de ma belle-sœur. Elles ont un point commun, toutes les deux elles font peur. Ma belle-fille, elle a tout, tout, tout d'un garçon manqué. Elle a tout, tout, tout d'un garçon manqué.
René Grolier, ma belle-fille, vous aussi comme Françoise Lemoyne, faites-nous part de vos suggestions en nous écrivant Philippe Meyer, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16, ou encore en vous rendant sur la page France Inter en un seul mot .fr, puis de là sur la page de l'émission qui vous permet de connaître la référence de tous les titres que nous diffusons, de tous ceux que nous avons diffusés, du générique de début, du générique de fin, des indicatifs, des séquences intermédiaires qui vous permet de réentendre l'émission indéfiniment. Et même de la télécharger en vue de l'écouter en vous baladant, c'est-à-dire en podcast. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 01 56 40 26 78. « Lorsque je suis allé en Chine, j'avais un interprète, un garçon extrêmement sympathique et qui ne laissait passer aucune occasion de dire beaucoup de mal des Japonais. Tant et si bien que je lui ai demandé si sa famille avait particulièrement souffert de la guerre en Mandchourie et de l'invasion d'une partie de la Chine par les Japonais. Il m'a répondu non, pas spécialement, mais il a ajouté « ces Orientaux sont fourbes ». On voit par là que les clichés traversent les mers et les continents et qu'ils ont la vie dure. Dans son dictionnaire des idées reçues sur l'Orient, Régis Poulet recense un certain nombre de ces clichés et il écrit « Dès l'Antiquité gréco-romaine, l'Occident s'est constitué un double imaginaire appelé Orient qui était paré soit de toutes les vertus, soit de tous les vices et qui se superposait plus ou moins à l'Asie réelle. De siècle en siècle, Orient et Occident sont devenus des alter-ego dans l'imaginaire européen, si bien que pour tout Européen contestant sa propre civilisation, l'Orient apparaissait comme un modèle fascinant, et au contraire, tout défenseur des valeurs de l'Europe chrétienne diabolisait un Orient jugé corrupteur. Ainsi, l'Orient est-il une projection imaginaire dont l'Occident s'est servi au cours de l'histoire pour donner le change à ses angoisses ou pour entretenir un espoir idéalisé, celui d'une identité rêvée, la sienne. Nous chanterons l'Orient.
Ce marchand de chaussures n'est pas sûr, je t'assure, avec sa jambe de verre, son œil de bois. Il n'a pas le teint du Rhône, il a même le teint jaune, cet homme-là, méfie-toi, c'est un Chinois. Tu sais bien ce qu'on raconte, à coup sûr, sur son compte, des histoires de voleurs de hors-la-loi. Paraît que c'est une fine lame qu'il aurait tué sa femme, elle disait en mourant, c'est le Chinois. S'il se donne l'air paterne, c'est qu'il met en lanterne tout son être et jusqu'au son de sa voix. Il fait bon qu'on le déteste, qu'on le fuit comme la peste, comme on doit fuir, je crois, certains Chinois. Que fume-t-il dans sa pipe de l'opium, en principe dont il fait le trafic, ça va de soi. Quand il dit sa prière, assis sur son derrière, il prie qui ? Le Bouddha, un dieu chinois. Regardez ce n'échoppe, quel milieu, interlope des gitans, des indiens de je ne sais quoi. Resté seul, il s'empresse de ne lire qu'une presse, qu'un journal, le canard, un chinois. Il fait des ressemblages en papier d'emballage, il se nourrit de riz frit au petit pois. Il raconte même, il ose dire qu'il vient de Formose pour qu'on croie qu'il n'est pas un vrai Chinois. Quand il met une assiette tout en haut d'une baguette, une assiette ou bien un dessous de plat, elle tourne en roue libre, maintenue en équilibre, il suffit qu'il agite un peu les doigts. Parfois il court la lande, disposant des guirlandes qu'il étale jusqu'au fond du petit bois. Et près du précipice, tire un feu d'artifice en criant « La poudre, invention chinoise !» Faisons vite, on cachette une collecte, qu'on lui achète un billet d'émigrant, il y a droit. Offrons-lui un passage pour Pékin, plus sage pour Pantin, au fond du quartier chinois. Qu'il s'en aille, Rome ou Sparte, l'important, c'est qu'il parte, car s'il reste, dans 10 ans, oui ma foi, il est capable d'atteindre son but, qui est de l'éteindre sur nous, et on sera quoi, tous des Chinois.
Charles Trenet, le Chinois. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. Alain Perfitte prit la première moitié de cette phrase pour en faire le titre d'un livre qui devait devenir un best-seller. 850 000 exemplaires vendus. L'ancien ministre du général de Gaulle soutenait que c'est Napoléon qui aurait prononcé cette phrase en 1816 à Sainte-Hélène, après avoir lu la relation du voyage en Chine et en Tartarie de Lord Macartney, premier ambassadeur du roi d'Angleterre en Chine à l'époque. En réalité, il semble bien que ce n'est pas Napoléon, mais Charlton Heston, dans les 55 jours de Pékin, à qui il faut attribuer la paternité de cet aphorisme.
La douce nuit où j'avais vu le jour, je n'avais pas quitté ma Marseille d'amour. J'y faisais mes affaires, rien de bien malhonnête, juste un peu trafiquant, vaguement proxénète. Un jour, une de mes filles qui n'aimait plus mes caresses me dénonça bien vite. J'eus la police aux fesses, j'ai dû fuir en laissant ma fortune à la banque, voilà, mon maillot de l'OM et mes boules de pétanque. Mais heureusement, j'ai trouvé un refuge à l'autre bout de la terre, qui bien souvent me rappelle les accents de ma belle Canebière. Hong Kong, Hong Kong, c'est un peu la province chinoise. Hong Kong, Hong Kong, c'est autre chose que la Seine-et-Oise. On mange tant de riz qu'en Camargue, on mange presque autant qu'à Toulon. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Côté population, ça m'a pas trop changé. Ici comme chez nous, y'a plus que des étrangers. Ils rigolent pour un rien, ils ont tous la jaunisse. C'est à croire comme nous, ils naissent dans le pastis. Si loin de mes cyprès, de mon vieux port de pêche, je pleure bien parfois. Les moules à l'escabèche, j'ai parmi les buildings, et quand je les regarde, je crois voir tout là-haut Notre-Dame de la Garde qui dit tout bas. Tu devrais te sentir comme chez toi dans ces lieux. Ne dit-on pas en Chine comme à Marseille, c'est l'empire du milieu. Hong Kong, Hong Kong, c'est un peu la province chinoise. Hong Kong, Hong Kong, c'est autre chose que la Seine-et-Loise. On mange tant de riz qu'en Camargue, on mange presque autant qu'à Toulon. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Mais quel est ce bruit que j'entends? C'est peut-être le chant mélodieux et strident des cigales. Non, c'est l'aéroport international, dont la piste se trouve à moins de 30 mètres de ma fenêtre. Hong Kong, Hong Kong, c'est un peu la province chinoise. Hong Kong, Hong Kong, c'est autre chose que la Seine-et-Loise. On mange tant de riz qu'en Camargue, on mange presque autant qu'à Toulon. Hong Kong, Hong Kong, this is the Hong Kong song. Kong, this is the Hong Kong song. Kong, this is the Hong Kong song.
Mon côté punk, Hong Kong. Vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples, écrit le général de Gaulle dans ses mémoires. Sans attenter à l'illustre souvenir de cette illustre figure historique, voici quelques-unes des idées simples et toutes faites que recense Régis Poulet dans son dictionnaire des idées reçues sur l'Asie. Les Asiatiques sont frugaux. Un commerçant chinois est capable de ne manger que de la soupe claire pour économiser et se débarrasser de ses concurrents. Un Japonais est capable de manger sa compagne pour réduire les frais de nourriture. Les Asiatiques sont aussi d'une politesse exagérée. Tout leur salam alek cache mal leur fausseté. Le sage est chinois, alors que le saint est indien. Le sage s'exprime par énigme. Lorsqu'il est aveugle, cela ajoute bien sûr à la clarté de sa pensée.
Les enfants de Chine, où de Ménilmontant, alentour des joncs ou bien des chalands. Que leurs yeux se plissent, s'ouvrent tout grands. Quand ils s'amusent, ont les mêmes yeux brillants. Et près de la Seine ou du Yangtze Kiang, devant leur assiette ou leur bol tout blanc, ont la langue rose et comme des loups montrent les dents. Les enfants de Chine ou de Ménilmontant, les enfants de Chine ou de Ménilmontant. Sous les verts platanes ou cerisiers blancs, quand la sève monte et qu'ils ont 20 ans, devant les filles ont un même cœur battant. Et près de la Seine ou du Yangtze Kiang, quand ces filles passent aux airs nonchalants, leur prennent la taille et disent tout bas des mots charmants. Les enfants de Chine ou de Ménilmontant, les enfants de Chine ou de Ménilmontant. Au creux des rizières ou des blés mouvants, quand ils sont des hommes, ont un même élan, devant leur terre ils rêvent longtemps, longtemps. Et près de la Seine ou du Yangtze Kiang, croient voir se lever ce nouveau printemps, où dans la lumière iront en chantant tous les enfants. Les enfants de Chine ou de Ménilmontant, à l'entour des joncs ou près des grands chalands, sous les verts platanes, sous les cerisiers blancs, au creux des rizières, au creux des blés mouvants, les enfants de Chine ou de Ménilmontant.
Patachou, les enfants de Chine. Tous les Chinois sont des hommes fourbes et cruels qui portent une natte et qui passent leur temps à inventer des supplices et à manger des œufs pourris et des nids d'hirondelles. Les Européens croient dur comme fer que toutes les Chinoises sans exception ont des pieds minuscules et que maintenant encore toutes les petites filles chinoises subissent 1000 tortures destinées à empêcher leurs pieds de se développer normalement. Enfin, ils sont convaincus que toutes les rivières de Chine sont pleines de petits bébés chinois que l'on jette à l'eau dès leur naissance. Et voilà, mon cher Chang, comment beaucoup d'Européens voient la Chine. Ainsi parle Tintin dans le Lotus Bleu, sans doute l'un des plus beaux albums d'Hergé.
Parfois elle est d'humeur joyeuse, se met à rire comme une baleine. Parfois elle est d'humeur affreuse, se met à pleurer comme une madeleine. Parfois elle chante sous sa douche, se prend pour la nouvelle star. Parfois elle ferme même la bouche, mais c'est souvent très tard le soir. Parfois elle a les pieds sur terre avec la tête dans le vent. Parfois elle se met ses pieds sous terre avec la tête en dedans. Parfois elle est d'humeur câline, aussi collante qu'une mouche. Parfois elle est d'humeur radine, aussi distante que farouche. Elle est Yang. Un jour elle me fait des yeux doux, se met dans la peau d'une princesse. Un jour elle me fait des yeux fous, se met dans la peau d'une tigresse. Parfois elle est extravertie, c'est un vrai moulin à parole. Parfois elle est introvertie, a peur de tout, faut qu'elle s'isole. Un jour c'est une pile électrique, se met à bouger dans tous les sens. Un jour c'est une pile antalgique, quand sa partie est en latence. Parfois elle est si voyageuse qu'elle refait le monde sans trêve. Parfois elle est si paresseuse qu'elle ne voit que la vie en rêve. Thank you.
Julien Zabel, le yin et le yang. En 1892, un diplomate sinophone, Camille Imbeau-Huard, observe que la Chine est pour nous le pays du contraste. Dans tout ordre d'idées, elle est à nos antipodes. Ainsi, le nom propre ou patronymique précède le petit nom, celui-ci n'est donc pas un prénom mais un post-nom, si l'on peut dire ce mot. En Chine, le blanc est la couleur du deuil. Toutes les boissons chinoises, thé, vin de riz ou de sorgho distillé, liqueur, etc. sont servies chaudes. Le chinois boit toujours chaud, ce qui le désaltère et le rafraîchit mieux que s'il préparait une boisson glacée. En classe, lorsqu'un écolier récite sa leçon, il ne fait pas face au professeur, il lui tourne le dos. Aussi, le verbe réciter, paye, signifie-t-il ordinairement tourner le dos à quelqu'un. Nous aimons avoir des ongles courts, les Chinois les préfèrent longs. Il y a des lettrés qui ont des ongles de 10 cm de longueur, ils les laissent ainsi pousser par coquetterie pour montrer qu'ils ne se livrent à aucun travail manuel. Pour empêcher qu'ils ne se cassent, on les protège au moyen d'étuis en argent finement ciselé.
Cendrillon de Chinatown, faut pas traîner. Le bougeau, ton père se calme, c'est du passé. Car la Chine, opaline, de son vieux cinéma dormant, Marie-Jeanne, opiumane, longtemps dormie pour longtemps, longtemps. Tu te fends d'une robe longue sur le côté. De Suzy Wong, il est râpé. Car la belle, oh belle, de ce vieux cinéma dormant, l'Amérique boulimique l'a engloutie pour longtemps, longtemps. C'est de Beverly, dans un ciné désert. Une chinoise de 15 ans vend du pop-corn dans un kimono vert. Elle se voit déjà Greta. Cendrillon de Chinatown. Se perd derrière ses paravents. Je me mine, je m'abîme. Mes rêves n'en ont plus pour longtemps, longtemps.
Chung, Cendrillon de Chinatown. Camille Imbeau-Huard, toujours. En Chine, la mère n'embrasse pas son enfant. Le baiser de la mère, chanté par nos poètes, est une chose inconnue. Elle porte l'enfant à son nez, comme si elle voulait respirer le parfum délicat d'une fleur à peine éclose. Nous portons des bagues au troisième, au quatrième ou au cinquième doigt. Les Chinois ne mettent de bagues qu'au pouce de la main droite. Le dîner chinois commence par les fruits confits et les graines de pastèque et se termine par le poisson et le potage, à l'inverse du nôtre. L'aiguille aimantée de la boussole, instrument que les Chinois ont inventé. l'aiguille aimantée de la boussole indique le sud et non le nord.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Tiap dénonce, je renonce Mao, Mao.
C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao.
Mao, Mao. Claude Chan, Mao, Mao, la chanson du film de Jean-Luc Godard, La Chinoise, sortie sur les écrans en 1967. Dans Les habits neufs du président Mao, paru en 1971, Simon Leys écrit « La révolution culturelle, qui n'eut de révolutionnaire que le nom et de culturel que le prétexte tactique initial, fut une lutte pour le pouvoir, menée au sommet, entre une poignée d'individus derrière le rideau de fumée d'un fictif mouvement de masse. » Et Bernard Pivot de relever que mépris, calomnie, accusation de charlatanisme et de corruption par l'Amérique déferlent alors sur l'auteur de cet essai qui brise le mythe d'une Chine enchantée par la révolution culturelle. Etiamble, le spécialiste de Confucius, écrira, en défense de Simon Leys et des habits neufs du président Mao, « Depuis l'aveu de London, je n'ai rien lu de plus bouleversant dans l'ordre du politique.
Les passagers à destination de New York, vol Air France numéro 705, embarquement immédiat, porte numéro 4.
Je suis désolée, mais c'est pas à moi d'envoyer le New York. Je finis à 6h, il est 6h30. Elle a une demi-heure de retard. J'ai déjà envoyé le Caracas à 6h08 et le Madrid à 6h15. Si elle n'est pas là dans 5 minutes, je laisse tomber Tombouctou. Non mais faut pas exagérer, y a pas de raison que je fasse son travail, j'ai fini moi. Normalement, à 6h, j'envoie le Tokyo et je rentre à Argenteuil. Mais si je pars pas d'ici en même temps que le Boeing du Tokyo, je rate mon bus pour Argenteuil. Dites, c'est pas la porte à côté, Argenteuil d'Orly, y a pas de décalage horaire. Les passagers du Tokyo, ils gagnent 5h avec le décalage horaire. Mais moi que je pars d'ici à 6h, j'arrive à Argenteuil, il est 8h. Et toutes les boutiques sont fermées. Alors ça commence à bien faire. Si elle n'est pas là dans 5 minutes, je laisse tomber Tombouctou. Non seulement elle arrive en retard, mais en plus elle est mauvaise. C'est vrai, elle a une bonne voix, mais elle dit mal les textes. Elle ne les dit pas, elle les joue. Elle les joue. Quand elle envoie le Tel Aviv, par exemple, elle dramatise. C'est pas un vol qu'elle annonce, c'est un exode. Elle dit embarquement immédiat, comme si elle allait traverser la mer Rouge, à pied. Il paraît que tous les passagers du Tel Aviv arrivent dans l'avion en sanglotant. C'est un pilote qui me l'a dit. Quand on est hôtesse, il faut pas se prendre pour Moïse, tout de même. C'est pas les 10 commandements, une annonce de vol.
Les passagers pour Tel Aviv, vol El Al numéro 604, embarquement immédiat, porte numéro 3.
Voilà comment il faut le faire. Sobre, impersonnel, modulé, c'est un métier ça. Quand on arrive en retard et qu'on s'en fiche, ça se sent dans la voix. On peut pas faire la vie et avoir une voix fraîche, c'est pas possible, ça. Mais je le sais, moi, pourquoi elle arrive en retard. Elle sort avec un Boeing en ce moment. Enfin, avec tout l'équipage d'un Boeing. Le commandant de bord, le copilote, le radio et les deux stewards. Il n'y a que le pilote automatique qu'elle laisse tranquille. Et encore, elle a dû y penser. Bon, ça va être l'heure du Tombouctou, qu'est-ce que je fais? Oh, je suis trop bonne, je vais le dire. Je suis peut-être bonne, mais je ne veux pas rater mon bus.
Et les passagers pour Tombouctou, vol Air Afrique, numéro 203, embarquement immédiat, porte numéro 11. Le conducteur de l'autobus Orly Gare Saint-Lazare est prié d'attendre la passagère, mademoiselle Ginette, qui va embarquer immédiatement après le Tombouctou. Merci d'avance.
Sophie Daumier, Tokyo Argenteuil. Aristide Maillol, le sculpteur. Ah, la philosophie chinoise est délicieuse. Il y a une phrase de Lao Tzu qui m'enchantait déjà quand j'étais jeune. « De terre se font les pots, mais c'est l'inexistant dans le pot qui fait sa qualité de pot. » C'est admirable, ça. Ça me ravissait. C'était l'époque où je commençais à avoir des idées, n'est-ce pas ? Je comprenais ça tout à fait. C'était ce que je voulais faire. Je ne me suis jamais contenté de la forme ni de la matière. Ça n'était pas la forme que je voulais faire, je voulais y mettre une âme. C'était l'esprit que je voulais, ce qui ne se voit pas. C'est l'inexistant dans le pot qui fait sa qualité de pot.
Dans Chinatown, Paris 13e, j'entends ses pas sous la pluie. Pont de Tolbiac, sous l'acier. La voix ferrée tord et crie. Travail des traverses gonflées par l'averse. Imagination tordue par le son. Tueur d'austère. Paris 13e, personne ne sort plus la nuit. Porte blindée, verrou et chaîne, fusil chargé près du lit. Plus loin, dans la zone. Tenu par les jaunes, les anciens de Saigon préparent la potion, couchés sur des nattes. Paris devient gris sur le quai de Bercy. Paris, Saigon, brûle encore au plafond, comme un drap froissé, gris-bleu délavé, un long ciel se lisse sous le pont d'Austerlitz. La mémoire, l'assassin qui traîne sur les voies du 13e. Dans Chinatown, Paris 13e, nouveau jour et lumière crue. était vietnamienne, étranglée, placée nue. Au milieu des traverses, une voix sans issue, tenue par les jours. La zone, c'est tu qui viens sur la liste du cœur d'Austerlitz.
Bernard Lavillier, Chinatown, Paris 13e. Pierre Loti, Madame Chrysanthème. Surtout, il y a le mystère de leurs tout petits yeux, tirés, bridés, retroussés, pouvant à peine s'ouvrir. Le mystère de leur expression qui semble indiquer des pensées intérieures d'une saugrenuité vague et froide, un monde d'idées absolument fermé pour nous. Et je songe en les dévisageant, comme nous sommes loin de ce peuple japonais, comme nous sommes de races dissemblables.
Par la colombe et l'olivier, par la détresse du prisonnier, par l'enfant qui n'y est pour rien, peut-être viendra-t-elle demain, avec les mots de tous les jours, avec les gestes de l'amour, avec la peur, avec la faim, peut-être viendra-t-elle demain. Par tous ceux qui sont déjà morts, par tous ceux qui vivent encore, par ceux qui voudraient vivre, peut-être viendra-t-elle demain. Avec les faibles, avec les forts, avec tous ceux qui sont d'accord, ne serait-il que quelques-uns, peut-être viendra-t-elle demain. Par l'espérance abandonnée, à Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. À Hiroshima ou plus loin, peut-être viendra-t-elle demain. La paix.
Georges Moustaki, Hiroshima. Au son moelleux des archers de l'orchestre de contrebasse, voici que sonne l'heure de notre avant-dernière séquence, à deux c'est mieux, au cours de laquelle nous vous proposons deux versions à nos oreilles également aimables d'une même chanson, les deux versions que nous allons vous proposer à la suggestion d'un de nos auditeurs, Michel Tolila. Ces deux versions sont musicalement différentes. Il s'agit au départ du même texte, quoique dans un certain cas il a été réduit et dans l'autre non. Ce texte est un poème de ce magnifique poète belge, Norge, et il est d'abord interprété par Juliette, qui l'a mise en musique, puis par Jeanne Moreau sur une musique de Philippe Gérard. Voilà donc, et vous allez voir comment à partir du même texte, on peut mettre des musiques dont la tonalité est différente, claire dans un cas, sombre dans l'autre. Voilà donc, par Juliette d'abord, le petit nom, puis par Jeanne Moreau, le petit nom.
Le petit grain de plomb châle gros lapin, le petit couteau dans le cœur de Marie, le petit éclair sur l'épaule de Firmin. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort en série. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort en série. Le petit crochet dans la bouche du gardon, le petit poison qui mordille le sang d'Adèle, le petit microbe dans l'intestin de Raymond. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort naturelle. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort naturelle. Le petit vent creux dans les poumons de Judot, le petit lacet qui serra le cou du loir, le petit marteau sur la caboche du veau. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort accessoire. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort accessoire. Mais le petit nom sur les lèvres d'Anna, quand je lui demande encore un peu d'amour, ça c'est de l'horreur, ça c'est de l'assassinat, de la mort qui pue et de la griffe de vautour. Anna, ma douce Anna, mon petit mouton, toutes les autres morts, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais ce petit nom qui répond toujours non, non, non. Ce petit nom-là, c'est de la mort dégueulasse.
Le petit grain de plomb qui faucha le gros lapin, le petit couteau dans le cœur de Marie, le petit éclair sur l'épaule de Firmin. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort en série. Le petit crochet dans la bouche du gardon, le petit poison qui mordit le sang d'Adèle, le petit microbe dans l'intestin de Raymond. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort naturelle. Le petit vent creux dans les poumons de Julot, le petit lacet qui serra le cou du loir, le petit marteau sur la caboche du veau. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort accessoire. Mais le petit nom sur les lèvres d'Anna, quand je lui demande encore un peu d'amour, ça c'est de l'horreur, ça c'est de l'assassinat, de la mort qui pue et de la griffe de vautour. Anna, ma douce Anna, mon petit mouton, toutes les autres morts, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais ce petit nom qui répond toujours non, ce petit nom-là, c'est de la mort dégueulasse.
Juliette d'abord, le petit nom, puis Jeanne Moreau, le petit nom, un poème donc de Norge, mis d'abord en musique par Juliette, puis dans la version Jeanne Moreau, par Philippe Gérard. Si vous voulez suivre, et nous vous y incitons grandement, l'exemple de Michel Tolila, qui nous a suggéré ces deux versions musicalement différentes d'un même texte, et que vous avez donc comme lui des idées d'un texte, d'un poème, qui aurait été mis en musique par plusieurs auteurs et qui pourrait donc donner lieu à des interprétations différentes, nous vous serions très reconnaissants de nous faire part de ces suggestions. Nous écrivons Philippe Meillat, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220 Paris CDX16, ou encore en vous rendant sur le site France Inter en un seul mot.fr, et de là sur la page de l'émission, la page de « La prochaine fois, je vous le chanterai ». Tocade. La tocade de cette semaine est le fruit d'une suggestion d'un auditeur. Décidément, les auditeurs font le travail, aussi bien pour la chanson « On » que pour « À deux, c'est mieux ». Et voilà maintenant que Stéphane Lerouge, dont vous vous souvenez du passage par notre émission, il avait été mon invité pour parler des musiques et des chansons des films de François Truffaut. Stéphane Lerouge m'envoie cette lettre de René Clair, le cinéaste, à propos de la chanson. Quoique j'ai eu le privilège de travailler souvent avec Georges Vanparis, écrit René Clair, je ne connais pas le secret de sa réussite et je me demande s'il le connaît lui-même. Le musicien est un sourcier. Son art, c'est de découvrir la mélodie que nous portons en nous sans le savoir. S'il est une de ces valses et complaintes que vous ne connaissez pas, vous la reconnaîtrez cependant dès la première audition. Vous ne l'aviez jamais entendue, mais n'en doutez pas, vous l'attendiez. L'eau de source ne se fabrique pas, elle se trouve, il en est ainsi de la bonne chanson. Elle ruisselle, en nappe souterraine, dans le secret de l'âme populaire, jusqu'au jour où, sous le coup de quelques baguettes magiques, elle jaillit vers la clarté du ciel et dispense à chacun de nous son goût de terroir et sa fraîcheur. Voici donc, pour illustrer cette belle et lucide lettre de René Clair, voici donc une chanson dont la musique est due à Georges Vanparis et les paroles à Jean Renoir. Elle est interprétée par Cora Vauquer et c'est La Complainte de la Butte.
En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revu. Cette chanson il composa, espérant que son inconnu, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur ta lèvre une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui.
La Complainte de la Butte, une chanson de Jean Renoir avec une musique de Georges Vamparis, interprétée par Cora Vauquer. J'ai un certain nombre de choses diverses à vous recommander. Je commencerai par vous recommander le numéro de la revue Schnock, le numéro 18, qui est la célèbre revue des vieux de 27 à 87 ans. Le dossier central est consacré à Philippe Noiret. Et je dois dire que tous ceux qui ont approché de près ou de moins près Philippe Noiret y retrouveront toutes les raisons qu'ils ont pu avoir d'admirer son savoir-faire, d'aimer son caractère et d'apprécier tout ce que Philippe Noiret a pu apporter au cinéma et plus tardivement, au début et à la fin de sa carrière, au théâtre. J'ajoute aussi qu'il a un peu apporté à la chanson, puisque j'ai eu l'occasion de diffuser à différentes reprises tel ou tel air qu'il avait interprété en général avec Jean-Pierre Darras dans le numéro qu'il faisait avec lui au cabaret L'Écluse, à l'époque où ce cabaret découvrait tous les chanteurs qui ont fait la gloire des années d'après-guerre et dont la plus célèbre est sans doute Barbara. Tiens, justement, à propos de Barbara, je voudrais vous signaler la parution d'un livre de Jean-Dominique Brière aux éditions Hors Collection. Ce livre s'intitule « Barbara, une femme qui chante ». Et tant que j'en suis au chapitre des livres, permettez-moi de vous glisser dans l'oreille une recommandation pour le livre que Bertrand Dical, le spécialiste de la chanson que vous pouvez entendre sur France Info, consacre à Serge Gainsbourg sous le titre « Tout Gainsbourg » et qui paraît aux éditions de la Jungle. C'était La Prochaine Fois, je vous le chanterai, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Perry de Minguy, préparée avec Thierry Dupin, Adrien Nazelli, Anne-Sophie Pierry, avec aujourd'hui à la technique Alain Joubert. Vous êtes prié de vous présenter la semaine prochaine, à la même heure que celle à laquelle vous vous êtes présenté cette semaine, sur cette même chaîne.